Cascodeur Podcast, épisode 276. Il a coulé mon data center. Enregistré le 25 mars 2022.
Merci à tous les patriotes qui nous soutiennent depuis récemment et depuis longtemps sur patreon.com/lescascodeurs. Merci à vous encore.
Bon, après j'ai un nouveau casque, mais je voulais pas trop faire chier là, mais...
Ah mais c'est ça, t'as un nouveau casque et du coup ça marche plus chez
non,
moi.
Non, j'ai pris l'ancien casque, non, je voulais pas trop tester le nouveau, donc bref. Bon.
On va parler plus vite, comme ça on va compenser le retard à l'allumage. Bonjour et bienvenue au casque.
ça me rappelle Rap Rapido avec Decaune, il parlait super vite Decaune.
Allez. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 276.
T'es sûr que c'est 276?
C'est pas 273?
Non.
Plus ah ouais. 1, 14, plus 15, suite Didier, plus... Ah oui, Didier, il y en a eu 3.
Voilà.
Ah ouais,
messieurs,
c'est la faute de Didier.
Voilà. Oui, quand 1 plus 1 égale 4, ça fout les ouïes.
C'est ça.
Donc, nous sommes le 25 mars. 2022.
À peu près.
Et je suis avec mes amis Antonio et Guillaume.
Oh, bonjour. C'est gentil tout le monde. Que tu nous considères comme tes amis.
Oui, sais. Voilà. Bah oui. Bah oui, parce que ça fait 20 minutes qu'on essaie de faire marcher le système. Ils sont restés, vous voyez. Donc c'est
des amis. Et oui. On t'aime, Manu.
En fait, c'est rigolo, mais juste avant, là, donc on a commencé avec 25 minutes de retard. Et juste avant, moi, je galérais pour me connecter à une base Postgres d'un bout de Java. Donc, vous voyez, on est en 2022. Et puis, Emmanuel galérait pour faire fonctionner son micro. Voilà, on est en 2022.
C'est pas comme si on avait fait plus de 270 avec un micro.
C'est ça. Alors, on va se lancer. On va partir sur les langages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de System Logger.
Ouais.
Du coup, Antonio nous a trouvé une petite ressource qui explique comment ça s'utilise, un peu un retour d'expérience, comparaison en tout cas avec les choses existantes.
Ouais, c'est rigolo parce qu'il y a maintenant il y a un petit bout de temps. Si on est au 276, je pense que ça fait quelques épisodes. On avait discuté, mais un peu par hasard, c'était même pas une news, je sais plus comment on en avait parlé, mais depuis, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est Java 9. Il y a une nouvelle API, Java 9, hein. Il y a une nouvelle API qui s'appelle Logger. Et donc, vous pouvez avoir le Logger par défaut via System, via la classe System, System.Logger. Et donc, vous avez une API Logger. Et l'implémentation, si vous faites rien, c'est Java Util Logging, donc Joule. Mais si vous faites quelque chose, vous pouvez mettre le logger de JBoss, LSF4J, Log4J, enfin bref quoi. Donc ce qu'on fait avec SLF4J depuis plus de 10 ans. Donc voilà,
donc c'est une façade, en fait, du coup.
Pardon ?
C'est une façade.
Ouais. Okay. Et donc on en avait discuté durant l'épisode 271, si ma mémoire est bonne. Et puis il y a Renato Attaides, je l'ai peut-être mal prononcé, qui a écrit un long blog suite à notre épisode. Il explique donc l'histoire des API de log Java. Il présente cette nouvelle API, là, System Logger. Il vous donne des petites. Il vous explique un peu l'API. Donc, vous savez, là, avec tous les loggers, on a tantôt trace, tantôt debug, tantôt find, finest, finer, bref. Donc là, l'API parle plutôt de trace, debug info, plutôt que, vous savez, le find, finer, finest de Joule. Il y a du message format, donc vous savez le Java text message format, donc on peut formater ces messages de log. Et
ça utilise effectivement le message format de la plateforme en fait,
oui.
Plutôt qu'à en avoir un différent. Ouais.
Et voilà, et puis après il fait une petite étude de perf Mais c'est, et puis voilà, il fait une petite étude de perf et il dit que Lockback reste encore plus performant. Bon, voilà, c'est pas bien bien grave, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a ce super long article sur SystemLogger. Donc, si vous êtes en Java 9+, et ben, allez jeter un œil à cet article-là, et ben, peut-être que c'est le moment de migrer sur SystemLogger. Ça peut être pas mal.
Deux trucs. Voilà. Alors déjà, en théorie, c'est fait pour que la JVM log elle-même, enfin que le JDK log lui-même, mais apparemment, on peut quand même l'utiliser, nous. Mais en fait, l'usage historique, c'est que les logs de la JVM, on pouvait les rediriger vers le back-end de log qu'on veut nous. C'était ça l'usage historique, et après, vous pouvez l'utiliser. Et l'autre truc, c'est que c'est un peu moins avancé en termes d'API pour ne pas exécuter le formatage sans quand les logs sont pas activés. Voilà, il y a des choses un peu plus légères, on va dire, que les autres façades que vous pourriez voir. Mais peut-être que ça vous suffit. Ensuite, on a une série de petites librairies Java qui s'annoncent comme légères.
Bah, c'est comme des langues,
tâches uniques.
C'est des commons. Hey, remarque, ouais, il y a de ça.
C'est des commons, là.
Mais non, c'est marrant parce que, en fait, donc moi, souvent, je parle des frameworks qui grossissent. Si tu suis un framework, tu te dis que il a l'air mort parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles features, de nouveaux trucs. Et les gens s'attendent toujours à ce qu'il y ait des nouveautés. Et au départ, tu avais juste une idée, ton framework, ton outil, ta librairie devait faire juste une petite tâche. Et puis finalement, elle fait le café, le thé, le ménage et tout. Et en fin de compte, là, alors je sais pas exactement qui c'est, Jod, ce groupe-là, ils ont fait en fait plein de petites librairies. Donc il y a
Spacic.
Ouais, mais je connaissais pas. Il y a par exemple un petit comment on appelle ça, dependency injector.
Un injecteur de dépendance,
un petit. T'as juste un micro framework pour faire des proxys. Juste une petite librairie pour faire du parsing, marshalling, JSON, mais pas avec tous les raffinements que tu peux imaginer dans Jackson, mais qui fait l'essentiel. Pareil, une petite librairie HTTP pour faire des clients HTTP faciles. Enfin, donc JSON, manipuler du HTML, faire des appels HTTP, envoyer des emails, faire, vous savez, les queries CSS sur du HTML, là, comme un peu à la jQuery et compagnie. Une librairie pour faire ça, une librairie juste pour, vous savez, il y a les paramètres nommés quand ils sont activés dans le JDK. C'est un truc qui permet de résoudre les paramètres nommés. Enfin bref, différentes petites librairies avec juste une petite tâche. Et ça ne fait que ça. Et ça ne cherche pas à faire tous les raffinements que, je sais pas, Jackson va faire pour le parsing, le marshalling de JSON, etc.
Donc j'aimais bien l'idée. On en reparle dans 2 ans.
Bah peut-être, je sais pas. On verra. Non, c'est une bonne.
Les trucs ont 2 ans. Là, je regardais le dernier commit. Ouais. Le truc principal, c'est il y a 2 ans.
Ouais, mais après, donc, attention. Tu vas dire, alors est-ce que c'est mort parce que justement, il n'y a pas eu de commit depuis 2 ans. Voilà. Je sais pas.
Et attention, c'est en Serbie, donc les Russes arrivent, donc ça continue à être mal.
Alors c'est jod.org, J-O-D-D.
.org.
Mais bon, non, si le dernier commit en fait, a 2 ans, forcément c'est mort.
Du truc principal, après il y a des choses. Mais par contre, ce que ça m'a fait penser, c'est on sait que le parsing, c'est donc l'interprétation, c'est là où on a les bugs d'injection, des choses qui sont interprétées positivement, mais avec une construction malicieuse, on se fait pôner. Donc c'est vrai que moi, quand parsing, j'ai tendance à me dire ouais, aller vers des trucs un peu peu utilisés, etc. Bon, ça,
moi, c'est un truc que je suis... Ouais. D'un autre côté, vu que la surface est petite, le scope est petit, il y a potentiellement moins de bugs ou potentiellement moins de... Je veux dire, ils n'ont pas intégré JNDI comme Log4j, tu vois.
Oh, elle est facile,
c'est ça. Non, mais je veux dire, pourquoi Log4j a continué d'évoluer et essayer de rajouter autant de pipes, de tuyaux qui pouvaient être... Bref, et on a vu le résultat. Ouais. Donc moi, voilà. j'aime bien. Ouais. Après, ouais. Je les ai même pas testés. Hein. Je les ai vus passer et j'ai pas testé, mais je trouvais ça cool, simple à utiliser dans la doc que j'ai pu lire en tout cas.
On a dit que cool, c'était Emmanuel qui le disait.
Sinon, en parlant de petite librairie qui fait Emmanuel. Une chose et le fait bien, Java 18.
La petite librairie Java 18.
Et le Covid, non.
Donc, juste pour rappel, vous en avez déjà parlé, mais on passe maintenant par défaut en UTF-8, même si vous pouvez changer la. Donc c'est pour les entrées-sorties, hein, notamment la lecture de fichiers. Donc mais vous pouvez changer ça par défaut avec un moins D, pas un moins D, mais une propriété de la JVM. Et puis sinon, de toute façon, quand on fait des lectures d'entrée-sortie, c'est toujours pas mal de mettre le chart set attendu. Comme on dit, ça évite des surprises. Voilà, il y a le web server tout simple qui a d'ailleurs un exécutable, donc ça doit être
J web server.
Voilà, les code snippets dont
les
on a
fameux.
Parlé,
les ouais. fameux. Ouais.
Et j'ai rajouté un petit lien là vers un guide. Alors il est sorti fin janvier, mais il couvre tous les cas d'utilisation de ces code snippets. Et c'est marrant parce que c'était quand hier ou avant-hier, j'en discutais. En ligne avec, il y avait Sylvain Valèze et puis je sais plus trop qui, et qui disait ouais mais en Rust c'est mieux au moins, tu sais que les code snippets que tu mets dans les commentaires ils ont été compilés, et justement bah, ce qui est bien avec ces nouveaux code snippets c'est qu'on peut pointer vers du code de notre code base, donc par exemple vers nos tests unitaires qui montrent comment utiliser l'API. Donc au moins on est sûr que les bouts de code Java intégrés dans les Java docs, c'est du vrai code qui marche. Donc ça moi j'aime. Et ce que je disais tout à l'heure à Antonio avant qu'on démarre, en attendant que Manu résolve ses problèmes techniques, c'est que bah en fait si on regarde, bah tu vas continuer de dérouler la liste des fonctionnalités qu'il y a dans Java 18, mais au final, je veux pas être méchant, mais il n'y a pas grand chose si tu veux de nouveau dans Java 18. Tous les autres trucs qu'on va citer, soit c'est invisible, comme par exemple la réimplémentation de la réflexion avec des méthodes handle, bah toi tu utilises toujours la réflexion, donc à la limite tu t'en fous. Enfin bon, il y a des implications de performance, des améliorations bien sûr, mais et après tout le reste c'est incubation, ouais. Deuxième incubation, troisième incubation, deuxième preview ou un truc dépréquété. Bon bah écoute. Mais voilà, on sait que c'est pas. Après, c'est souvent dans les LTS, les versions LTS.
Bon, après, c'est tous les 6 mois aussi. Attention.
Et c'est tous les 6 mois.
On a un rythme effréné pour l'histoire de Java là.
C'est ça. Mais du coup, je disais à Antonio, moi, ma fonctionnalité préférée, en fait, c'est les Java Doc. C'est ça qui est marrant.
Mais c'est rigolo. Vous trouvez pas qu'avant, quand on passait de, tu vois, le passage à Java 5, mais on s'en souvient encore, c'était mythique. Ouais. On l'attendait. Il y avait des trucs, des machins, ça arrive, bibra et tout, machin truc. Là, tous les 6 mois, en fait, on s'en fiche.
Puis de toute façon, on passe de 8 à 18 à 17, hein, je sais pas comment. Donc on en saute plein.
Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le modèle quand tu regardes Quarkus et Micronautes. Voilà, ça release très souvent aussi. Ouais. Les gens ils s'attendent à des petites mises à jour régulières plutôt que des gros trucs.
C'est vrai que le modèle Java SE et Java EE à l'époque, Java. Ouais, c'est terminé, puisque maintenant c'est une release tous les 6 mois. Ouais. Il reste plus que Jakarta EE, je sais pas si ça s'accélérera ou pas, mais même le micro profil en 5 ans, je crois, il y a eu 5 releases, si je dis pas de bêtises, 5 ans. Mmh. Et c'est vrai que comme tu dis, on se fait plus à ce mode-là, en fait, aujourd'hui.
Il y avait, alors je sais plus qui c'est, je crois, c'est quelqu'un de l'équipe de Java, ou de la JVM, ou de. Je ne sais plus trop qui avait partagé justement un graphique avec pour chaque release le nombre de nouveautés importantes. Donc effectivement, dans les premières barres, tu voyais avec l'ancien rythme des grosses barres avec « Ouah, il y a tout ça !» Et puis après, par contre, tous les 6 mois, ah ben là, il n'y en a que 5, 6, 7, tu vois. Et donc c'était assez amusant de voir « Ah ben ouais, mais en plus, ce qui était... » un peu traître dans ce graphique, c'est que forcément, tu as les deux grosses barres au début, mais l'écart de temps entre ces deux points était en vrai beaucoup plus élargi, alors que sur le graphique, ils étaient côte à côte. Et après, c'est tous les 6 mois, alors qu'en fait, il y avait plusieurs années entre les deux premières barres. Ouais. C'était pas le meilleur choix de représentation, mais on voit que c'est des incréments intéressants, petits à chaque nouvelle version tous les 6 mois. Quoi.
Ce que je sais pas, moi, c'est la boucle de feedback, en fait. Tu vois, la Vector API, troisième incubation. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu pied là sur les GEP. Je sais plus comment. Il y a des nouveaux fonctionnements maintenant avec les GEP. Mais avoir des incubations, je trouve que c'est pas mal parce que bah, tu peux donner du feedback. Mais je ne sais pas quelle est la boucle de feedback. J'ai un peu perdu le.
Bah, il y a Rémi Forax.
Oui, il y a Rémi Forax qui a une boucle de feedback.
Je sais pas si elle est énorme, mais en tout cas, elle doit être plus grande parce qu'avant, sinon, il fallait quand même se compiler son JDK ou trouver un download dans un endroit obscur. Donc là, c'est quand même plus fait pour que tu fasses des retours. Et du coup, il y a des Java champions ou autres qui font des blogs ou là-dessus en disant, bah, voilà, il y a ça, j'ai essayé, moi, j'aime pas ceci. Oh, il y a Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opinions, en tout cas, il y a beaucoup de plus de gens qui expliquent les fonctionnalités, je trouve. Je ne sais pas s'ils ont des opinions, hein, si après ils poussent leurs opinions.
Parce que souvenez-vous, les lambdas, punaise, les lambdas, mais c'était des années, c'était Dallas, quoi.
Ah, ouais, après, on en a eu plusieurs, pour le coup, il y a eu des manipulations.
Parenthèse, machin, truc, c'était la folie, quoi.
Il y avait BCGA, les différentes.
Ouais.
Oh là là!
En plus, il y avait les emojis, ils ont quand même raté un truc, tu vois. Les emojis partout. Donc, on a parlé de la réimplémentation de la réflexion. Il y a l'API de vecteur, donc, qui continue d'évoluer. L'Internet Address Resolution SPI, donc, pour aller changer l'implémentation par défaut. On a parlé aussi l'appel des fonctions qui ne sont pas en Java, des foreign functions, et puis l'API de mémoire qui permet de mapper la mémoire qui n'est pas de la mémoire managée Java. Le pattern matching pour les Switch, pas les Nintendo Switch. Hein, pour les...
et on est en deuxième preview, hein, donc c'est pas final encore.
Et puis effectivement, la finalisation, finalize, qui est dépréciée, et du coup, qui sera enlevée hein, quelque part dans le futur.
Oui, c'est pas toujours. Enfin, on peut l'activer. Il y a un flag qui active la dépréciation. Donc, si vous voulez tester si votre code est compatible 19+, vous pouvez dire tiens flag à trou. Et là,
je me souviens plus ce qui est Valhalla et Loom. Il n'y a pas de preview et de.
Bah les switch, c'est enfin, Valhalla, tu sais, c'est un méta projet en gros, mais.
Ouais, il y a plusieurs choses.
Les switch, les patterns, ça vient de. C'est Valhalla.
Non, c'était pas
si Valhalla, c'est
c'était...
l'appel des.
Attends, du coup, je confonds. Non, Panama, c'est foreign function et tout ça.
D'accord.
Valhalla, c'est justement. Alors, merde, du coup, j'ai peur de dire des bêtises.
Alors, en parlant de bêtises, moi, quand ils disent Valhalla, j'ai.
Les value types, les generic specialization,
c'est ça que je cherchais.
Les NHLs volatiles.
Voilà, en particulier les value types, c'est celui que j'avais retenu pour Valhalla.
Et les génériques universels.
Et Loom, c'est les nouveaux Fiber, etc.
C'est les gros threads, les coroutines, enfin les threads verts.
Ouais, équivalent. Mais du coup, eux, ils sont pas encore dans un JDK en incubation, en preview ou quoi que ce soit.
Non, c'est même pas encore là-dessus.
Parce que moi, il y a une conférence, il paraît bientôt, comment ça s'appelle? Devox France, où il y a des gens très bien qui vont parler de ces sujets-là. Mais du coup, je
Alors, je crois que c'est Devox Belgique.
Ah oui. Ça doit être ça.
Bon, allez, on avance.
Yes.
Librairie. Il y a Micronautes. Non seulement, alors je ne sais pas si vous avez vu, on a mis un peu de temps avant de sortir un nouvel épisode news, là, depuis janvier. On était tous beaucoup occupés avec des contraintes des uns des autres. Voilà. Donc, désolé pour ça. Mais en tout cas, du coup, Micronautes 3.3 et 3.4 sont sortis. Tu veux en parler, Guillaume?
Oui, si tu veux. Alors, support de GraalVM 22, le binding par valeur des annotations, donc avec
CDI. Les valeurs des paramètres. Donc, on dit at toto name foo, et ça, c'est l'identifiant de votre binding.
Ouais. Au niveau sérialisation, là, ils ont refait. Alors, on peut quand même continuer d'utiliser JSON, qui peut apporter encore plus de contrôle, etc. Mais ils ont réussi à faire de la sérialisation vraiment alors comment dire, enfin de manière sans réflexion ou quoi que ce soit, juste grâce aux données, enfin aux métadonnées, avec la génération de code qui, enfin ou le parsing de code, enfin oui, génération aussi. Et du coup, voilà, sans réflexion, ça veut dire aussi bah, de plus léger en mémoire et meilleure performance. Donc ça, c'est assez chouette ce qu'ils ont réussi à faire. Et il y a un nouveau module de mail.
Juste, on parlait de la sécurité, ça a tendance aussi à
diminuer la
surface. Pas accepter voilà, les champs arbitraires. Donc ça, c'est ça.
Ouais, parce que du coup, il n'y a que ce qui est voilà, compilé, on va dire, qui peut être accepté, vu que tu peux pas, enfin, tu fais pas de réflexion, donc potentiellement, tu pourrais pas accéder à des choses auxquelles tu n'es pas censé accéder.
Ouais. Tiens, donc, pour les quarkusiens, il y a QSON qui fait ça aussi.
D'accord. Je ne savais pas que vous le faisiez aussi. Cool. Un nouveau module d'email, donc qui permet d'envoyer des mails avec différents services, Mailjet, Amazon, SendGrid et compagnie. Les opérateurs Kubernetes, je sais plus trop ce que ça fait.
C'est pour implémenter des opérateurs Kubernetes. Ah oui, avec donc ils ont probablement repris le Java Operator SDK et
intégré à Micronaut. Donc, ça devrait permettre de simplifier, ou en tout cas d'utiliser l'approche Micronaut pour pouvoir créer des opérateurs pour Kubernetes. Alors après, la suite, c'est les nouveautés dans Micronaut 3.4. Donc la possibilité de référencer des bin properties dans quand on utilise @requires. On peut dire bin et pointer vers la classe qui va bien et puis après spécifier moi je m'intéresse à tel champ en particulier. Ils ont fait aussi des améliorations au niveau Enfin, on peut faire de l'injection de messages localisés là quand on veut faire de l'internationalisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a un nouveau module Micronaut Data pour MongoDB. Donc au lieu d'utiliser les intégrations avec JPA et je ne sais plus trop ce que c'était l'autre, donc il y a un nouveau module natif et encore une fois avec l'approche AOT, génération de code, etc., la compilation, découverte des schémas, donc qui a l'air de couvrir en tout cas la plupart de ce que les autres modes d'accès à MongoDB permettaient de faire.
Tiens, c'est rigolo parce que je te coupe, ouais. Mais il y a Jakarta, donc désolé, mais Jakarta E, c'est le nouveau nom pour Java E, même moi je m'y perds un petit peu, mais Jakarta E avait en tête de créer une spec autour de la data en s'inspirant de ce que fait Spring Data, en s'inspirant aussi de ce que fait Quarkus avec les repositories. Et je sais pas où c'en est, mais c'est vrai. Et donc l'idée c'était d'avoir des repositories qui aillent ou sur du Mongo ou sur une base de données relationnelle, des choses comme ça.
C'est compatible, enfin pas compatible, mais en tout cas il y a la même approche. Comme dans R2DBC, là, le truc qu'avait poussé l'équipe Spring. Donc quand on veut faire plus du réactif, streaming de résultats.
Non, et dernière fonctionnalité.
Hein, vas-y.
Les templates, c'est plutôt les Spring templates là, qui permettent de dire j'ai vaguement la même API.
Oui, mais R2DBC, c'est pour la partie real-time, streaming des résultats.
Ouais, mais ça, du coup, pour le coup, l'API, elle doit être quand même différente. Sinon, tu bénéficies pas de la partie non bloquante, quoi. Si t'as pas de type non bloquant qui revienne.
Ouais. À creuser. Et
parce que toi, tu dis que dans R2DBC, il y avait. Ah non, c'est dans Spring qu'ils avaient fait les templates pour compatibles R2DBC, ça.
J'ai pas dit template. C'est toi qui as parlé de template,
d'accord.
En fait. Là.
Pardon. Et en fait, du coup, je sais pas trop ce que tu voulais dire par le.
Bah, en fait, l'approche réactive à la R2DBC, quoi, qui est aussi intégrée dans ce nouveau module, le Micronaut Data MongoDB. C'est tout ce que j'ai dit.
D'accord, ok.
Ouais.
Ok. Mais R2DBC, c'était pas pour l'équivalent de JDBC, c'est pas.
Bah, JDBC, bon. Mais enfin le nouveau JDBC qui est capable.
Pour les bases relationnelles, je voulais dire.
Non, alors après, je vais vérifier R2DBC si je dis pas de conneries. Mais
c'est vrai que pour moi R2DBC, c'était. Ouais, mais la partie relationnelle.
Parce que non, tu vois, R2DBC, c'est bien basé sur les reactive streams et tout ça. Donc ça marche, oui, ouais. Avec les relations, les bases de données relationnelles.
mais aussi pour les autres. Alors, enfin, celles qui.
Donc, en tout cas, quand il décrivait cette fonctionnalité-là, il parlait aussi de l'approche R2DBC. Donc, je pense que c'est l'approche, la partie streaming, mais pas spécialement le fait que ce soit d'accord. relationnel.
Bon. Ah, du coup, il y a, OK, la partie streaming pour Mongo. Donc,
voilà. Qui a une, enfin, quand tu utilises les SDK de Mongo, enfin, les librairies natives ouais, ouais. de Mongo, il y a déjà ouais. ce support dedans. Donc, okay. il wrappe ça
d'accord.
à la R2DBC, on va dire.
Voilà. Parce que R2DBC, effectivement, c'est pour des bases de données relationnelles en tant que site, mais Mongo, en tant que driver, il avait des approches non bloquantes aussi.
Voilà. Et cool. dernière chose, donc le support de Maven pour Micronaut AOT. Il y avait Cédric Champeau qui avait bossé là-dessus sur le Head of Time. Et donc, ça fonctionnait bien avec Gradle. Et avec Maven, c'était beaucoup plus compliqué, mais il a quand même réussi à s'en sortir. Donc, voilà.
En pestant un peu.
ouais, un peu. Sur Twitter et ailleurs. Bravo Cédric, t'as réussi. Voilà.
Voilà. Sinon, il y a Hibernate 6 qui est sorti et Gavin King faisait un peu.
Qui danse
toujours la salsa. Oui. enfin, j'imagine. Et qui voulait mettre en avant certains points clés que lui trouvait intéressants dans Hibernate 6. Donc, il y a le tout nouveau parseur HQL qui a un langage beaucoup plus riche et je sais que Gavin s'est pas mal investi pour rajouter des fonctionnalités qu'il trouvait manquées dans le langage. Donc, au-delà de JPQL. Des API nettoyées, du coup, si vous utilisiez encore des super vieilles API, il y a des chances que le portage vous demande d'aller trouver une API alternative. Donc, ça ne sera pas forcément du transparent. Le Data Definition Language, donc les créations de tables, les mises à jour de tables, est de bien meilleure qualité et s'adapte beaucoup plus à la cible de vos bases de données. Parce que en fait, en dessous, l'infrastructure donne plus d'informations et du coup, le générateur DDL peut faire plus de choses. Il y a des requêtes de type, c'est pas OLAP, mais de type rapport avec des filters rollup, cube, alors Windows Function avec un objectif que ça arrive dans une 600, 6.2, quelque chose comme ça.
Les OLAP, c'était pas un bonhomme de neige, non?
Joli.
oui. Et on peut faire de l'arithmétique sur des dates. Alors, pas comme j'ai écrit arithmétique, mais on peut maintenant faire des choses, des telles dates, moins telles dates, voilà, au niveau HQL, hein, plutôt que d'avoir à le faire en Java derrière, ou alors au niveau d'une requête plus native. voilà, et un truc parmi les trucs qui se voient pas, mais qui sont utiles, c'est au lieu d'utiliser les noms des colonnes, en fait, ils utilisent les index des colonnes maintenant, ce qui fait du SQL plus compact et plus rapide. En fait, il y a moins de pré-processing des drivers et certains drivers étaient vraiment pas bons pour ça. Et puis, le SQL est plus court puisqu'on parle de juste 1, 2, 3 plutôt que d'aller récupérer les noms des colonnes. Voilà. Ça a l'air simple, mais en fait, c'était super compliqué.
Bah, oui, ouais, parce que là, j'étais en train de me dire, mais comment ça fonctionne derrière oui.
Bah, c'est un index, en fait. C'est genre, c'est première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, en fait, c'est tout con, mais aller rechanger ça dans Hibernate, ça a pris du temps. Voilà, on avait parlé de Stork, qui est SmallRise Stork, qui permet de faire du service discovery et de la sélection de services, du coup. Et il y a un petit article de Aurea, je ne sais pas le prononcer, désolé. Voilà. Qui explique un petit peu à quoi ça sert, le contexte, qu'est-ce que Stork amène dans le problème qui existe, même pour dans le contexte de Cube, et puis ensuite comment ça se configure. Mais l'idée, c'est que vous référencez un protocole virtuel Stork 2. Avec une URL virtuelle, et ça, après, c'est mappé vers votre service discovery explicite, que ça soit Consul ou Cube ou des choses comme ça.
Et c'est pas Tony qui a travaillé dessus hein.
Tony
Stark,
c'est
Iron Man.
C'est Tony Stark.
Tony Stark, Tony Stark.
On en avait déjà parlé, hein, mais c'est l'équivalent de. Attends, je vais confondre encore la stack Netflix. Ribbon. Mm. Et c'est ça, hein, c'est ouais. Le lot de balanceurs clients là qui. D'accord.
Ribbon est mort, on peut mettre un ruban noir maintenant, c'est ça.
Bon, il y a d'autres rubans quand même, tu aurais pu trouver une couleur plus joyeuse.
Non, mais qu'est-ce que vous avez contre le noir? Qu'est-ce que vous avez contre la couleur noire?
On est tous habillés en noir.
Alors justement, Stork, là, ça vient avec Quarkus 2.7.
Oui, par la 1.0. Ouais.
Qui est sorti déjà depuis un bail, puisque si je dis pas de bêtises, on est à 2.7.5.
Oui, donc... ça, en fait, ce qui se passe, pour être transparent, c'est que là, la 2.7, ce sera une qui sera à la base de la version produit de Red Hat, la nouvelle. En fait, on en fait un peu moins que tous les mois. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de stabilisation autour de la 2.7.
Ah, là, d'accord. Donc, vous allez créer un produit autour de la 2.7, ah, alors.
Il existe. Ouais, oui, ça, oui, c'est, on appelle ça déjà, Red Hat mais... Build of Quarkus, et puis ça sera la 2.7.
Voilà. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de Quarkus 3.0 dans le pipe pour que tu repères de ton énième pari, Emmanuel.
Qui sait? Non, j'ai arrêté de parier. Voilà. Sinon, Quarkus, il a une, comme Micronautes avait depuis quasi le début, je pense, une command line pour utiliser Quarkus directement sans avoir à faire un Maven avec un truc moderne pour créer les projets, c'est plutôt pratique. Donc maintenant, ça a été poussé dans SDKman, dans Homebrew, dans Jbang historiquement. Voilà. Donc, toujours un peu plus facile à utiliser et à garder à jour quand on utilise ces choses-là. Une extension pour le driver réactif d'Oracle. Je lisais Oracle réactif et je pensais à Olaf encore. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça a été demandé longtemps. En fait... ça a mis longtemps, plus longtemps que d'autres, parce que déjà il y avait des choses pas super claires sur la licence qu'il a fallu vérifier. On voulait pas prendre le risque. Et puis l'autre, c'est que la façon dont le Oracle réactif fonctionne dans GraalVM, ils ont été, on va dire, ont pris le chemin un peu plus facile. Du coup, ça consommait plus de mémoire. Je crois que nous, on fait des modifications supplémentaires pour qu'on soit plus à la corde. Voilà. On va passer à l'infrastructure, l'énergie. L'énergie a augmenté beaucoup en ce moment. Vous serez content de savoir que... Enfin non, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui a publié un rapport qui synthétise certaines recherches autour de la consommation énergétique des data centers. Et les data centers, on nous dit, ah, ça consomme de plus en plus d'énergie, c'est exponentiel, ça va consommer des dizaines de pourcents dans le futur. Et il se trouve que effectivement, il y avait une grosse augmentation jusqu'à, je crois, 2015, et que depuis, on reste à 1,5% de la consommation énergétique mondiale, bien que le nombre de data centers et le nombre de babas dans les data centers ait pas mal augmenté. Alors, c'est hors crypto.
Bah après, cryptocurrency, normalement, sur les clouds publics, genre chez Google, tu peux pas en faire. Hein, ouais. Tu n'as pas le droit d'en faire. Ouais. Donc, il y a des moulinettes qui
vérifient. C'est pas disons que la data center en Chine, dans le garage du gars,
voilà.
Ouais. Celui-là, on ne compte pas.
Ouais.
Mais c'est vrai que je regardais des vidéos internes Microsoft, enfin remarque interne non, il y en a une ou deux, elles sont publiques, et j'étais vraiment bluffé de voir l'effort qu'ils mettent déjà à être
plus vert, plus économe,
ouais, être carbone neutral en 2030, tu vois, en 2030, et après ils ont même fait des études pour récupérer le carbone qu'ils avaient fait depuis le début de Microsoft et là rechoper celui-là en 2050. Et lorsque tu regardes tout ce qu'ils font, c'est assez bluffant en fait. C'est assez bluffant. Alors,
c'est pour ça qu'ils ont arrêté les téléphones Microsoft.
Mais vraiment, c'est technologiquement, ils utilisent des tas de trucs. Enfin, j'étais vraiment super bluffé de voir que ce qui leur coûte super cher quand même, c'est le kilowatt. Et donc ils font tout pour faire baisser la facture. Et bien sûr, comme toutes ces boîtes-là ont une pression énorme aujourd'hui sur le green IT, etc. Et vous imaginez bien qu'ils ont une force de frappe. Enfin, ils peuvent mettre des millions de dollars pour innover sur des tas de trucs. Donc j'étais assez bluffé de voir que les data centers, ils les bichonnent. Ils innovent à tout va. Donc c'est vrai que lorsque j'ai lu ça, je me suis dit
nos amis d'Amazon et de Google doivent avoir les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de data center bashing et d'internet bashing. Donc, les boîtes font super gaffe. Et puis, elles ont les moyens d'innover, quoi.
Google est un petit peu plus en avance là-dessus aussi, je crois, quand même, que Azure et Amazon. Aussi bien sur les sources d'énergie que tout ce qui avait été aussi offsetté, parce que, en tout cas, rétrospectivement, tu peux pas faire grand chose sur ce que tu avais déjà produit avant, donc à part faire des offsets.
Tu peux recapturer après, c'est ce que.
Oui, tu peux. Il y a pas mal de recherches sur la recapture, hein, c'est vrai. Donc, même des startups.
Mettre les tuyaux direct au cul des vaches.
Et de plus en plus aussi de nouveaux gros data centers qui utilisent des énergies renouvelables. Et le petit truc qui est marrant là sur GCP, c'est donc quand tu es dans la console Google Cloud, le sélecteur où tu peux choisir dans quel data center tu veux aller, en fait maintenant ils mettent des petites feuilles vertes. Alors, 0, 1, 2 ou 3, je sais plus combien il y en a, pour dire si tu déploies ton code, ton appli, tes données dans tel data center, tu seras encore plus vert que si tu utilises tel autre data center. Donc il y a une petite incitation pour
utiliser un taxi, data center, tu sais,
super vert, quoi.
Ouais, tu peux prendre l'Uber normal et puis le Uber Green qui te coûte un peu plus cher, mais ah oui, d'accord, intéressant.
Okay. Ouais. Donc non, c'est marrant, c'est une petite incitation supplémentaire, quoi.
Moi, ma vision positive, c'est que les alertes qui ont été sorties entre 2010 et 2015 ont payé, en fait, puisqu'il y a eu des investissements de Google, Amazon et plein d'autres autour de ça.
Après, j'imagine aussi ce qu'il faut voir aussi, malgré tout, donc là, on parle un peu peut-être du côté bisounours. Après, de leur côté, de chacun de ces acteurs-là, c'est des économies de coûts aussi. Alors même si racheter, faire des offsets, faire tous ces investissements-là, évidemment, ça coûte très cher, mais au final, ça augmente ta marge aussi, parce que tu as une consommation électrique pour la même puissance de calcul qui sera bien moindre, quoi.
Ouais.
Donc
ouais.
Enfin, tout le monde y gagne. Le client, le provider cloud, et aussi bien que la planète, parce que voilà.
Et le recyclage aussi, hein. Le recyclage est là-dedans, donc ils recyclent les serveurs et tout. Enfin, j'étais assez bluffé. Puis on en avait parlé sur les cascodeurs il y a peut-être un an. Là, vous savez, Microsoft avait fait son fameux test avec un data center qu'ils avaient mis dans l'eau pendant 5 ans.
Oui, c'est vrai.
Et ils l'ont ressorti.
Ils l'ont toujours pas retrouvé. Ah, si.
Et les donc, en fait, ils s'imaginent. Ah ouais, tiens, c'est vrai.
Ils ont coupé le câble, souvent.
Et on ne devrait pas dire les Russes, on devrait dire le gouvernement russe.
Oui, oui, le gouvernement.
Poutine.
Et en fait, ils vont renouveler cette expérience-là avec des data centers deuxième génération et qui pourraient se pluguer les uns aux autres, en fait, parce que je crois qu'il n'est pas très long, il fait 5 ou 6 mètres, et tu pourrais en mettre comme ça N. Plonger dans l'eau, donc tu les refroidis pas, etc. quoi. Et puis, ce qui était quand même bluffant, c'est qu'ils ont mis plein de capteurs autour de la capsule pour voir s'ils perturbaient pas trop la vie sous-marine, quoi. Les petits poissons, est-ce que les moules, elles venaient se mettre dessus, etc. etc. Donc, c'était assez rigolo. Les mecs, ils sont allés jusque-là. Bon, bref.
La moule a bouffé mon capteur.
Ouais, voilà.
SpaceX, je crois qu'ils voulaient envoyer des data centers sur la Lune. Non, je rigole,
c'est incroyable.
Non, je rigole, c'est une collègue. En tout cas, donc je sais pas si c'est une et qu'il y a des comptes. Alors je pense que ça n'inclut pas forcément les études que j'ai vues, je crois qu'elles n'incluent pas le matériel, c'est vraiment la consommation énergétique, donc le coût en CO2, matériel, etc. Mais en tout cas, c'est deux études qui avaient été publiées dans Science, donc elles sont passées par de la peer review, voilà,
de la relecture de la pair.
Voilà. Et donc, ça, c'était infrastructure, mais on va parler de cloud aussi, avec l'état du développement cloud natif, avec un sondage annuel.
Ah ouais, j'étais assez bluffé. Là, il y a un sondage créé par Slash Data, mais qui est soutenu par CNCF. Excusez-moi, à chaque fois, je me gourre, je dis SNCF. CNCF.
Ah, c'est
NCF et
il a sorti une nouvelle appli
qui fait couler de l'encre.
Et donc.
Mode, ça.
Bon, vas-y.
Un peu de sérieux, messieurs. Un peu de sérieux. Enfin, bon, bref, c'est un sondage annuel que je connaissais pas. Hein, donc, ils en sont à leur 3e édition ou 4e édition. Donc, c'est un sondage. Ils ont interrogé 19 000 développeurs sur l'état du cloud natif. Bon, alors, cloud natif, déjà, le terme est pas facile. La définition est pas claire. Hein. Mais sur, voilà, est-ce que vous utilisez Kubernetes, oui, non, jusqu'où, le cloud natif, pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous utilisez des containers, des orchestrateurs? Donc, c'était vraiment pour voir où en est le cloud parmi les développeurs. Alors, c'est pas développeur Java, hein, c'est développeur worldwide. Et, bon, comme on pouvait s'y attendre, tout est en augmentation. C'est-à-dire que pour vous donner des chiffres, hein, alors une fois de plus, je sais pas bien comment ils comptent, mais il y aurait presque 7 millions de développeurs qui utiliseraient.
Selon la police.
Vous voyez, c'est pas super évident, mais qui développerait en cloud natif, entre guillemets, une fois de plus, parce que...
se disent développeurs en cloud natif.
Se disent développeurs.
Il y a le bon cloud natif et le mauvais cloud natif. Ça ne rentre pas dans le débat, là.
Grosse augmentation en Amérique du Nord et en Europe. On parle énormément de edge computing aussi. Ils ont toute une section sur le edge computing. Donc, vous savez, c'est
marrant,
aussi...
C'est marrant, un cloud native, maintenant, on s'était dit, c'est data center d'autres. Mais là, on parle aussi de edge computing, en fait, qui est permis grâce à cette notion de cloud. Donc, c'est paradoxal, en fait. Mais intéressant.
Oui, puisque on va essayer de mettre la donnée vers le traitement le plus proche de l'utilisateur, donc on va déporter des choses, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre qui pourrait être pas mal? Enfin bon, voilà, en grosse augmentation, quoi. Donc c'est un slide deck. Vous avez pas mal de slides, c'est bien fait. Il y a des camemberts, il y a des, il y a plein de diagrammes. Donc, si vous voulez pousser ça au sein de votre boîte, de votre projet, dire, écoutez, si vous êtes en train de pousser le cloud et qu'on vous dit, mais non, c'est utilisé par 4 hurluberlus, là, vous avez des chiffres à l'appui. Je dis pas qu'il faut aller vers le cloud, je dis juste que là, il y a des chiffres à l'appui qui disent que les gens y vont. Voilà. Allez jeter un œil si ça vous intéresse.
Un autre article alors qui est long et qui est super intéressant pour les gens qui pensent leur déploiement avec disons en mode contrat, donc avec des service level agreement ou des service level objective
SLA, SLO.
Voilà, SLO. Et donc celui-là est intéressant, il explique un peu le l'historique. Il dit en cible, je crois que c'est Google d'ailleurs qui en termes de maturité, voilà les cibles des SLO pour les services qui sont disponibles à l'utilisateur, c'est 99,99. Pourquoi? Parce que il y a en gros, au-delà de ça, c'est un peu perdu dans le bruit. Bon, je crois qu'on avait déjà parlé, mais entre le Wi-Fi du gars qui marche pas, son ISP qui est pas du tout au niveau, etc. Donc, ça sert à rien d'aller au-delà. Par contre, on en parlera après, mais les dépendances, quand on a un service qui dépend d'un autre service, la règle sur le pouce, la règle au pif, en gros, qui est utilisée. Non, c'est pas au pif, comment on dit? Une règle
empirique.
Plutôt bien empirique. Non, pas empirique, c'est une règle simple, en fait. Tu vois, un truc. C'est pas grave. Mais une règle empirique qui marche plutôt bien, c'est de rajouter un 9. Voilà, donc vos dépendances, pour que on puisse respecter le 99,99 d'un service, les dépendances qui sont critiques, on en parlera un petit peu après, il faut qu'elles aient un 9 de plus. Donc c'est 99,999. Là, ça commence à sérieusement pousser hein, pour ceux qui
ont. Tu fais des sacrées omelettes avec tous ces neufs-là.
C'est ça. Non, pour des gens qui essaient de cibler des SLO et de du coup réfléchir à comment ils récupèrent les problèmes, etc. Ça commence à toucher sérieusement haut là, 99,999. Et donc, bien se rappeler, la disponibilité, elle est fonction de le temps moyen entre les problèmes, le mean time between failure, voilà, et le mean time to failure, pardon, et puis votre temps à réparer, donc le mean time to recovery. Et donc, votre disponibilité, en gros, c'est le mean time to failure divisé par le mean time to failure plus le mean time to recovery, qui est votre temps total entre deux événements. Et du coup, pour aller à 99,999, ça veut dire que faut aller travailler en nombre de fois où il y a des problèmes et surtout en vitesse à laquelle on récupère les problèmes. Donc, une des solutions quand on a des dépendances, des services qui sont dépendants d'autres, c'est qu'ils ne soient pas critiques au fonctionnement du service premier. Et donc, on peut faire des solutions de repli, que ça soit du cache, du qu'on appelle fail open. Donc alors ne faites pas ça pour la sécurité, mais du dire tiens, si mon identité, mon SSO il marche pas, je vais dire que le gars il est logué, puis hop on avance. Donc faites pas ça pour la sécurité, mais on peut imaginer d'autres services sur lesquels ça peut être intéressant. Voilà, donc comme j'ai dit, la dispo dépend du temps de détection et du temps de récupération. Donc déjà, il faut que vous détectiez le plus vite possible, et ensuite que vous ayez travaillé à ce que l'humain en fait soit le moins là possible pour pouvoir récupérer automatiquement et beaucoup plus rapidement. Et donc pour revenir aux services qui sont dépendants d'autres services, si le service dans lequel vous dépendez est que à 99,99, soit vous acceptez que votre contrat il est à un 9 de moins, donc 99,9. Soit vous allez travailler à la non-criticalité de cette dépendance. Et du coup, vous allez investir de l'ingénierie pour ça. Voilà, donc ce qu'ils recommandent, c'est de faire des scénarios. On se dit, on va avoir un problème majeur, genre de tout le service, et puis trois faibles qui travaillent que sur un sous-ensemble du service, des shards en général. Donc, souvent, il y a la notion de sharding pour dire que si on a 10 000 clients, on a 10 shards, et du coup, il y a 1 000 clients qui sont affectés et pas 10 000. Et donc, dans les calculs de SLO, en général, ça, on dit que, en fait, les 1000 clients, ils sont 100% affectés pour eux, mais en fait, ils sont un dixième de l'affectation globale au niveau du service. Donc, c'est un petit peu triché, mais après, pas forcément, disons que c'est, si on est parmi les gens sur qui ça marche pas, ça nous énerve, mais voilà. Donc ça, c'est, bon, en tout cas, c'est des calculs assez classiques. Et du coup, il reste vraiment. Donc, quand on fait ces scénarios, genre un majeur, trois faibles, et puis on va imaginer que on a trois problèmes dans nos services critiques qui arrivent. Du coup, on peut calculer le temps qui nous reste, le nombre de temps qu'on a pour aller récupérer le service. Et donc, on a ce qu'on appelle les budgets d'erreur, le error budget, qui est en gros un moins le SLO. Et donc, sur un mois en fenêtre glissante, on peut dire, on a. On peut tomber pendant 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, en fonction de votre du SLO que vous avez. Et du coup, ça vous permet de décider si l'ingénierie elle doit un peu arrêter l'innovation de nouvelles fonctionnalités et se concentrer sur que les bugs qui sont la cause d'un des gros problèmes de disponibilité ou alors des problèmes critiques. Donc, ça fait une back pressure, comme on dit, au niveau de entre la prod et l'ingénierie. Pas si simple à mettre en place. Moi, je sais qu'on expérimente pas mal avec ça. Google a écrit le bouquin, mais je sais pas si en interne c'est aussi mature que le bouquin ou si c'est la trajectoire. Mais en tout cas, c'est pas forcément super simple de travailler avec des error budget entre les PM, l'ingénierie et puis les parties plus service reliability engineering.
Ouais, les error budget qu'il faut consommer, sinon ça a rien d'en avoir et.
Ouais, il y a ça. Alors, ça, c'est l'exemple canonique. C'est genre, quand on a 100% de dispo, il y a, je sais plus quel service, Chubby ou un truc assez fondamental, où il le shoot à la fin du mois pour forcer les gens à réaliser que cette dépendance, elle est pas, elle peut tomber. Voilà. Ouais. Donc, faites des revues d'architecture pour identifier ces dépendances, identifier leur impact. Peut-être aller travailler à isoler trois pools de serveurs qui sont indépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Parce que si vous avez vos services et vous arrivez à être indépendant, mais en fait ils tournent tous sur la même baba, c'est pas si indépendant que ça. Voilà, il y a donc la notion d'indépendance, elle est plus subtile que ça. Faire des dépendances asynchrones qui peut réduire le nombre de dépendances critiques. et surtout le retour arrière automatisé d'une release qui fonctionne pas. Donc on enlève l'humain de la boucle qui permet de raccourcir le temps de réponse et de garder un SEO. Voilà, je me suis arrêté, j'ai continué à lire l'article, mais j'ai arrêté de prendre des notes. Il est très, très détaillé et intéressant pour les gens qui sont justement dans ces réflexions-là.
Tiens, on parlait dispo, je passe un peu du coq à l'âne. Je suis chez SFR et mon accès Wi-Fi n'était pas super top. Donc moi, je suis en filaire, 20 gigabits, et en filaire, je monte à presque 900. Et en Wi-Fi, je descendais à 100 et c'était vraiment pas stable. Ça coupait sur les cascodeurs et tout, les calls et tout, c'était un peu pénible. Et j'ai vu qu'il y avait leur fameuse box en Wi-Fi 6. Donc là, je suis en Wi-Fi 6 là depuis quelques jours. Et donc le filaire bouge pas, hein, je suis toujours à 900. Mais par contre, en Wi-Fi, je suis passé de 100 à 500. La box est toujours à 3 mètres hein, de mon ordinateur, donc je suis passé de 100 à 500 et je me connecte vachement vite et c'est super stable, enfin pour l'instant pas de souci. Et le Wi-Fi 6 justement, ils vous le vendent avec il n'y a pas trop de perturbations avec avec les ondes des Wi-Fi tout autour de vous. Donc si vous êtes en milieu urbain avec énormément de Wi-Fi autour de vous, ça permet justement d'avoir un réseau un peu plus stable. Voilà. Donc
et là, je suis passé en 99. Ton ordinateur, il était déjà Wi-Fi 6 ?
Oui, puisque c'est alors vous allez rigoler, hein, mais pour l'instant j'ai un Windows 11 qu'on m'a prêté pour le boulot, mais ne rigolez pas, mon Mac arrive. Et les nouveaux Mac, les Mac M1 sont en Wi-Fi 6.
D'accord.
Et les derniers Samsung et les derniers iPhone aussi. Voilà.
Alors, on va parler d'architecture et on va rester un peu autour du cloud encore là. Ce sont les design patterns pour écrire des systèmes distribués et donc des microservices et donc être cloud native.
Alors, il est super cet article, hein. Il est très très bien.
Voilà, il est dans le spectre plus simple et concept haut niveau par rapport au SLO qui va vraiment dans le détail. Et donc bah vas-y Antonio, parle-en.
Oui, si vous voulez si pareil vous avez besoin de savoir ce que c'est, enfin de connaître un peu tous les patterns autour du microservice ou de les expliquer à vos collaborateurs et les collaboratrices, et ben cet article est plutôt pas mal parce que si vous entendez parler de asynchrone, L-check, circuit breaker, feature flag, bulkhead, service discovery, là en fait on en parlait avec Stork, et ben cet article est plutôt pas mal. C'est toujours une dizaine de lignes par pattern avec une petite image qui parfois m'explique un peu mieux. Et voilà, donc si vous avez envie de vous rafraîchir les design patterns des microservices ou les apprendre ou les enseigner, ben je vous conseille vraiment cet article-là qui va pas trop dans le détail. Donc c'est pas si vous allez sur j'ai oublié le microservices.io là, le site de notre ami, j'ai oublié son nom. Donc c'est hyper détaillé, hein. Il prend la structure des bons vieux design patterns, environnement, avantages, inconvénients, pros, cons, machin. Là c'est pas du tout ça. C'est pas trop dans le détail. C'est un bon survol sur les design patterns pour les microservices, le rate limit, le back pressure et tout ça quoi. Voilà.
Figure-toi qu'il y en a un que je connaissais pas de nom en tout cas. C'est bulkhead.
Ah oui, mon nom. Oui.
Bulkhead, c'est la compartimentalisation dans un bateau. Vous faites des compartiments qui sont étanches les uns après les autres. Donc, si vous avez un gros trou, eh bien, ça remplit ce compartiment-là, mais le reste du bateau reste flottant. Donc,
comme le Titanic.
Le Titanic, il avait ça, mais bon, ça n'a pas marché.
Le bulkhead, il n'allait pas jusqu'en haut du mur, donc l'eau, elle passait au-dessus. Quoi. Non, mais c'est ça. Hein.
C'est ça. Oui.
Parce qu'il y a vraiment des compartiments hein, dans les paquebots comme ça, et le Titanic, il y en avait. Le problème, c'est que ça n'allait pas jusqu'au max. Donc, une fois que l'eau a dépassé... un des compartiments, ça allait dans les autres compartiments.
Encore un product manager qui a dit qu'on n'avait pas besoin de la fonctionnalité jusqu'au bout.
Ouais, c'est ça. C'est marrant.
Marqué, imaginez faire un test réel. Ça aurait coûté un peu cher. Quand même.
C'est pas
faux. Chaos engineering.
Chaos engineering, oui.
Tu shootes un paquebot.
Tu peux le faire sur un petit...
Je pense qu'ils ont dû tester sur un petit truc. Ouais, ils ont peut-être dû tester sur un petit truc.
Voilà. On va passer aux méthodologies et notamment plutôt une réflexion autour de, bon, quand on fait une revue de code, qu'est-ce qu'on fait pour pas énerver l'autre et que ça ait le plus de valeur possible? Et donc, mon collègue Gunnar a fait une pyramide, donc comme la pyramide des besoins fondamentaux. Et le code, le style de code, est-ce qu'il y a un espace entre les parenthèses? C'est tout en haut, c'est-à-dire on n'en a pas besoin, en fait.
On n'a pas
On a
besoin.
peu besoin. Ce qui est important, ce qu'il recommande, c'est de focaliser ses efforts sur la sémantique de l'API, si vous définissez une API. Est-ce qu'elle est la plus simple possible? Est-ce qu'elle est a le principe de moindre surprise et pas mal d'autres choses. Donc là, vous concentrez là-dessus parce que c'est les choses qui sont les plus impactantes à faire bouger. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la sémantique de l'implémentation. Est-ce que ça a l'air de faire ce que c'est censé faire? Est-ce que c'est robuste? S'il y a par exemple, des problèmes de concurrence, ce genre de choses, est-ce que c'est performant? Alors ça, en termes de pull request, c'est quand même pas facile de voir ça, mais bon, il y a peut-être des choses assez faciles à trouver. Est-ce qu'il y a l'injection de on y parle de la sécurité aussi, donc il met la sécurité assez fondamentale, donc assez bas dans la pyramide. Ensuite, il met la documentation. Est-ce que la documentation, est-ce que la truc est documentée? Est-ce qu'elle est compréhensible pour quelqu'un qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et après, les tests. Donc les tests, c'est moins important qu'avoir tous ces points fondamentaux. Et donc, c'est pas qu'il faut pas qu'il y en ait, mais dans votre revue, ben oui, vous allez vérifier que les tests passent, mais ça va sûrement être automatisé. Vous allez peut-être vérifier que la couverture, elle est effectivement correcte, qu'il n'a pas testé juste le cas facile, etc., etc. Et au final, à la fin, le formatage, est-ce que le code, il y a de la duplication, est-ce que c'est complètement lisible, etc. Tout ça. Déjà, ça peut être automatisé avec des calculs et de l'auto-formatage, donc comme fait Sego, hein, qui auto-formate le code
Oui.
quand tu compiles. Voilà, donc ça, nous, je crois que dans Quarkus, on a fait ça aussi, mais en fait, du coup, il n'y a plus de ce top de la pyramide, il est enlevé, on a moins à se bagarrer pour des choses qui servent peu, en fait, au final, à la qualité du projet. Donc voilà, donc c'était il a fait ça et puis il y a eu après les échanges sur les gens pas d'accord, d'accord, c'était un petit truc intéressant.
Mais c'est vrai que c'est pas mal
Pareil
parce que la
pour les
pyramide,
listes.
comme tu dis, en haut c'est automatisable et en bas non. Et c'est vrai que nous, ce qui nous éclate, c'est tout ce qui est automatisable. C'est vrai que la sémantique d'une API, là vous imaginez que c'est un peu plus complexe et il peut avoir des débats hyper houleux. Alors que oui, effectivement, formater le code d'aujourd'hui, il y a mille et un outils qui le font pour nous. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé aussi sa série de tweets, le blog, etc.
Ça peut être un débat intéressant dans votre équipe, en fait. Vous
Ouais.
prenez ça, puis vous discutez, est-ce que vous êtes en phase ou pas? Plutôt que de vous fighter à coups de pierre le vendredi soir entre un mec et un autre, et puis les gens au milieu, genre, mais non, mais on peut être amis. C'est OK. Voilà. Donc, être d'accord sur les points fondamentaux. Voilà, on va passer à la sécurité.
Oh, sécurité.
Et oui, mais pas des bugs de ce fin. Donc, GitHub a supprimé des éléments qui étaient soit pas sécures ou de sécurité faible. Il l'avait annoncé depuis, je sais plus, novembre ou quelque chose comme ça. Et puis, là, ça y est, c'est passé en complètement fait. Donc, déjà, le Git 2.//, il est, en tant que protocole, n'est plus supporté. Parce que ça, c'était pas sécurisé. Donc, il faut passer par SSH Git, en gros, ou HTTPS. Et pour ceux qui utilisent SSH, justement, ils ont fait un peu un nettoyage de printemps sur les clés. Donc, toutes les nouvelles clés qui sont proposées, enfin celles qui sont créées récemment, doivent avoir SSH2 ou plus, enfin plus de SSH1, plus de clés DSA. Et puis ils supportent les nouvelles courbes elliptiques qui sont pas mal utilisées en ce moment parce qu'elles sont beaucoup plus, elles ont besoin de moins de bits pour avoir un même niveau de sécurité, en fait. Donc c'est pas mal utilisé. Et puis Samsung, alors on va pas aller dans les détails, mais Samsung, en parlant de crypto, ils ont leur enclave sécurisée là. Mais il se trouve que l'API qu'ils avaient offert encourage, enfin ne décourageait pas les gens à utiliser les mêmes vecteurs d'initialisation. Et du coup, en fait, il y avait un vecteur d'attaque possible. Enfin, il y avait plus que ça, mais il y avait un vecteur d'attaque possible pour aller brute forcer ce qui avait été mis dans l'enclave. Et du coup, une application que vous installez sur votre Samsung pouvait aller taper l'API pour finalement retrouver les clés des autres. Donc, c'était pas très cool. Et ça explique que la sécurité, c'est toujours compliqué. Les algorithmes, ils sont là, mais si vous les utilisez mal, par exemple, vous réutilisez les fameux nonce, les éléments qu'on doit générer et n'utiliser qu'une seule fois. Si vous les réutilisez d'un moment sur l'autre, et ben vous faites la compromission de sécurité puisque on peut commencer à aller attaquer et retrouver d'autres éléments quand vous faites ce genre d'erreur. Donc là, dans le cas de Samsung, c'était ça. Puis surtout, les gens, je crois que c'est en Israël qu'on fait ça, ils ont dû rétro-ingénérer puisque c'était du code proprio. En fait, Android ne standardise, peut-être standardise l'API, mais il standardise pas l'implémentation de la Secure Enclave. Et donc, chacun a son propre OS pour faire tourner la Secure Enclave avec, voilà. On va passer à la loi société et organisation. Et puis, dans la grande qualité des NPM et de la supply chain, on en a encore un nouvel épisode. C'est ça?
Punaise. Ouais. En fait, c'est rigolo là, mais on en a deux. Il y en avait un où on en avait un petit peu parlé, il me semble. C'était un développeur qui a saboté son propre projet open source. Donc, je ne sais pas si vous connaissez FakerJS. Vous savez, c'est cette petite librairie JS qui fait.
Ah oui, non, mais celui-là, on en a parlé. Ouais.
Celui-là, on en a parlé.
Deux fois même. Ouais.
Ah ben, tu vois, bon, bah alors on arrête. Donc, effectivement, il y avait ça dans le monde JS, hein, toujours. Le développeur qui a carrément saboté FakerJS et ColorJS. Et là, on a eu, toujours dans le monde JS, on a eu aussi le module Node IPC.
Hein.
Node IPC. Qui affichait un message non à la guerre ou un truc comme ça sur votre serveur. Alors il était plutôt sympa parce que je crois qu'il
c'est pire que ça en fait, hein, parce que effectivement il dépendait d'un module qui s'appelle Peace Not War
qui
s'est affiché genre ne faites pas la guerre, merci. Et donc ils ont rajouté cette dépendance et puis surtout c'est allé un peu crescendo, donc à la fin le gars il a rajouté du code à moitié offusqué pour aller effacer les données du disque dur si vous étiez d'une IP russe ou bélarusse. Donc pareil, en tant que dépendance, c'est intéressant. Ou la prochaine fois qu'on fait un Windows ou Apple update, si on est en guerre avec les États-Unis, se passe quoi?
C'est compliqué.
Oui. C'est des points intéressants. Et du coup, donc l'article de Sneak parle pas forcément de ces détails-là, mais il y a d'autres articles qui en parlent du côté de plus en plus agressif du sabotage en fait, du sabordage en fait. C'est pas tant un sabotage qu'un sabordage.
Oui. Ouais. C'est du sabordage. Ouais. Et dans cette même mouvance, vu qu'on en est à parler de Peace Not War, il y a effectivement VMware, Red Hat et plein de boîtes qui s'ajoutent ou qui sanctionnent contre le gouvernement russe. Bah, typiquement, Microsoft arrête tous les nouveaux contrats. Enfin, je pense qu'on baigne tous un peu là-dedans là.
Ouais. Et c'est souvent les nouveaux contrats parce qu'en fait.
Oui.
Donc là, c'est toujours difficile parce qu'il y a le gouvernement et le peuple russe, et donc on impacte le deuxième pour essayer d'impacter le premier, malheureusement, c'est un effet de bord. Mais et après, il y a le faire avec, entre guillemets, une porte de sortie et le faire sans porte de sortie. Donc il y a, là je parle pas de ces boîtes-là, mais il y a des boîtes des DNS providers qui disaient, vous pourrez plus renouveler, mais par contre, évidemment, on arrête le contrat à la fin de votre date d'expiration, et puis, vous avez du coup le temps de vous retourner et trouver quelqu'un d'autre, si vous arrivez à payer en rouble les machins. Mais et t'en as d'autres qui étaient plus agressifs, du genre, tous les points RU, on les vire, vous avez une semaine pour trouver quelqu'un d'autre, et dans ce contexte pour une boîte ou un individu en Russie, qui justement a plus accès à payer en dollars, etc. Là, c'est compliqué, voilà. Donc, il y a eu des graduations en termes de sanctions, enfin d'auto-sanctions, parce que ça, pour le coup, c'est des boîtes qui font un choix sociétal politique pour ça. Voilà.
Bon, voilà pour les sabotages dus à la guerre en Ukraine
Ouais.
et les boîtes qui sanctionnent.
Bon, sinon, faut arrêter d'utiliser Google, parce que je s'en prie. Non, il y a donc la Google Font a été reconnue. C'est quoi? C'est en Allemagne, ça encore, de
Ouais,
mémoire, non?
c'est strict là-dessus. J'ai pas
Eh
trop
punaise,
compris
eh,
comment.
je fais une autre parenthèse. J'étais en Allemagne la semaine dernière pour Javaland. Et il y a deux trucs qui m'ont hyper bluffé. C'est qu'à un moment donné, on était au restaurant et on a demandé à la serveuse de nous prendre en photo. Elle nous a pris en photo, elle nous a redonné le téléphone et puis elle nous a dit, par contre, la cliente là, derrière, on la voit sur votre photo, il faut que vous la floutiez. Donc c'était la serveuse qui te disait ça. Et à Javaland, on prend une photo, il y avait tu vois, en fait, un stand d'un sponsor qui faisait une petite animation avec des perruques, des trucs et des machins, et on met des perruques, des trucs et des machins, et on prend une photo. Leur stand prend une photo. Et on leur dit, bah cool, vous pouvez la tweeter. Ils ont dit, non, on n'a pas le droit. Ce que vous pouvez faire, on n'a pas le droit de garder votre photo à vous. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'on vous donne la photo papier, et vous la prenez en photo, vous. C'était hyper compliqué et je me dis ouais, punaise, l'Allemagne ils sont chauds patates hein, sur RGPD là donc
Dans ce cas-là, c'est en fait c'était un site web qui utilisait Google Fonts comme beaucoup le font. Et en fait, donc quand on accède au site web, il y a potentiellement une requête vers les serveurs Google pour aller récupérer la fonte. Et du coup, ça, c'est considéré par une cour allemande comme violation de la RGPD.
Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ne faire aucune requête extérieure à ton propre site, quoi. Tout héberger?
Si tu peux, mais tu dois l'annoncer et la personne peut dire non et du coup tu dois
Parce
avoir
que du coup,
un
j'avais
système
pas
de
compris
backup,
comment
tu
ça
vois.
fonctionnait le problème avec Google Fonts. Ok.
Bah, tu sais, c'est genre acceptez-vous les cookies, les... En fait, c'est un
Ouais,
truc supplémentaire. Donc il doit y avoir consentement explicite.
d'accord.
Genre, voulez-vous une
Et
fonte de merde ou une fonte correcte? Voulez-vous pleurer des yeux ou est-ce que c'est OK?
Eh
Voilà.
ben, puisque c'est comme ça, je vais prendre la fonte de merde.
Bon, après, l'autre solution, c'est de copier alors, je sais pas si Google l'autorise dans ses licences, mais on pouvait aussi copier la fonte et
Si, si,
l'héberger
faut.
vous-même.
Ouais, on peut la télécharger. Ouais.
D'accord.
Donc
Un
là, ça
truc
peut
qu'on
être la
peut,
solution pour ce
ouais.
problème-là en particulier, en tout cas.
Voilà. Et un truc qu'on peut moins télécharger, c'est Google Analytics.
Ouais.
Alors, c'est quoi? Parce que pour le coup, j'ai pas été dans le détail. Est-ce que vous savez résumer?
Je ne sais pas. Je ne commenterai pas.
Ouais, toi, tu peux pas commenter.
Moi, j'ai pas tout compris, mais effectivement, il y a un petit souci avec l'utilisation de Google Analytics. Mais
Mais
bon.
j'imagine que c'est un peu le
Voilà.
même problème donc Google Fonts après tout, parce que tu dois, enfin, si tu vas
La
sur un
CNIL s'y est mis,
site,
hein, la CNIL s'y est mis.
tu vas à un site où il y a Google Analytics, fatalement, ça appelle Google Analytics, donc Google Analytics a forcément. Non, enfin, j'en sais rien.
Google Analytics permet de disposer de statistiques de fréquentation d'un site web. Saisie de plainte par l'association NOYB, la CNIL, en coopération avec ses homologues européens, a analysé les conditions dans lesquelles les données collectées grâce à cet outil sont transférées vers les États-Unis. La CNIL estime que ces transferts sont illégaux et impose à un gestionnaire du site web français de se conformer au RGPD et, si nécessaire, de ne plus utiliser cet outil dans ses conditions actuelles. Bon,
Vous
ben
vous
voilà.
rappelez parce qu'il y a eu le, je sais plus quel nom, l'acte de qui
Patriote.
protégeait le transfert des données entre l'Europe et les États-Unis, qui a été déclaré illégal il n'y a pas si longtemps que ça. Et que du coup, il y a plein de choses un peu qui étaient automatiques qui sont tombées. Et du coup, ça doit être un effet de bord là-dessus de ça. Parce que techniquement, les données d'analytique, elles arrivent Après, du coup, je sais pas si Google a des notions de c'est uniquement hébergé en Europe ou pas, mais
pour Google final, Analytics, ça, je sais pas. C'est pas dans mon rayon, mais c'est possible qu'effectivement soit. C'est pas comme les services cloud où tu choisis ton data center, etc. Là, c'est du SaaS en quelque sorte. Hein. Donc, j'imagine que ça va effectivement aux États-Unis, oui, ce qui paraît logique.
Donc, la CNIL met en demeure le site de ne plus utiliser Google Analytics ou, dans les conditions actuelles. C'est-à-dire, c'est pas interdit Google Analytics, mais c'est interdit un outil qui transfère les données aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà. Ça, je pense qu'il y a plein de gens qui devraient aller faire des mises à jour, y compris moi d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Alors, sinon.
Les conférences.
Attends, Sonatype.
Ah oui, pardon, excusez-moi.
Sonatype
rentre en bourse.
Ouais, en bourse.
Et bim.
Enfin, se prépare pour une IPO, donc une entrée en bourse. Et en même temps, ça a un peu de sens vu qu'il y a toute cette notion de sécurisation de la chaîne de construction de code. Ils sont quand même plutôt bien placés au cœur de ça. Et du coup, ils font une entrée en bourse autour de. Enfin, ils se préparent pour pouvoir rentrer en bourse. Donc, ils expliquent que ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'ils donnent un peu des chiffres. Ils ont 350 clients. Ils ont à peu près 400 employés. Et ils veulent en rajouter 250 en 2022 pour arriver à 700. Ils veulent arriver à 700 à la fin de l'année. Voilà. Donc, ça montre un peu qu'ils veulent pousser là-dessus. Après, on verra l'impact sur le produit ou les parties gratuites des produits, etc. Mais voilà, donc eux, ils se poussent, ils essaient de se trouver une opportunité de grossir, en fait, plutôt que de rester un peu plus niche, peut-être.
Ouais.
Voilà les conférences.
Les conférences.
La conférence. Bon.
Ouais. Bah déjà il y a Devox France, hein, mais vous pouvez plus venir si vous n'avez pas votre place.
On avait peut-être un peu marre d'en parler d'ailleurs.
Déjà, ouais. Ensuite.
Après, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y aura le Riviera Jug cet été là? J'ai pas suivi, tiens.
Ah non, mais c'est beaucoup trop tôt pour qu'ils aient préparé encore.
Oui, remarque, c'est peut-être ça. Ouais.
Riviera Dev, tu veux dire?
Ouais. Riviera Dev, voilà. Ouais. Le Riviera Dev. Il y a le Brest Camp qui revient.
Oui.
J'ai vu tweeter ça, mais je ne sais plus quand. J'ai plus les dates, flûte. Donc il y a le Brest Camp. Mais il y a surtout.
Attends, il y a Devox Belgique
qui a annoncé qu'ils allaient le faire. D'octobre, un peu plus tôt que prévu, oui.
Ouais, au mois d'octobre.
Brest Camp du 29 juin au 1er juillet. En fait, ça reprend. Hein. Brest Camp, trop trop cool. Nos potes du Brest Camp, voilà. Ils reviennent fin juin, début juillet à Rennes.
Donc, Devox Belgique. Du 10 au 14.
Oui, octobre, c'est un peu plus tôt que prévu. Moi, j'ai connu Javapolis au mois de décembre pour Noël, c'était sympa. Ensuite, il a mis au mois de novembre. Voilà. Et là, il a décalé au mois d'octobre. Et puis en octobre, je pense qu'il n'avait pas vu ça venir. Après, je ne suis pas sûr que ça lui fasse de l'ombre. Mais il y a JavaOne qui revient, mais plus au Moscone Center, à Las Vegas.
Las Vegas, ouais.
Après, pour celles autour de JavaOne, au lieu de CodeOne, etc. Donc,
oui,
la franchise JavaOne.
Ça avait été Oracle CodeOne. Donc, en fait, c'était petit morceau d'Oracle CodeOne. Là, c'est re-JavaOne top level.
Mais c'est quand même pendant Oracle World qui est à Las Vegas. Donc, c'est
qui est aussi à Las Vegas. D'accord.
À côté d'Oracle World.
Oui, d'accord. Ah,
donc,
oui, d'accord.
C'est pas non plus le JavaOne indépendant
de l'époque.
D'accord. Voilà. En tout cas, ils veulent parler, Java Langage, Java Platform, Cloud Native Development, qui ne veut pas, les bases de données, les microservices, le DevOps, l'intelligence artificielle, le machine learning, la sécurité et l'application management. Donc, on va dire observability en poussant un peu le bouchon. Et plus.
Bon, pour celles et ceux qui connaissent pas JavaOne, parce que c'était en stand-by depuis un petit bout de temps, JavaOne, c'était la grande messe Java créée par Sun à l'époque. Ça avait lieu chaque année à San Francisco, au Moscone Center, donc on était vraiment au milieu de la ville. Hein. Et puis, il y a eu le rachat. J'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a quand même eu un Java One après le rachat, parce que vous imaginez bien qu'une conférence comme ça, en fait, ils réservent le Moscone Center 4 ans avant, je pense. Donc, lorsqu'Oracle l'a racheté, il y a quand même eu un Java One, avec un peu de flottement. Et puis après, comme dit Guillaume, Java One, ça s'appelait plus Java One, c'était Code One avec Oracle One, c'était un peu le bazar. Donc les gens ont pas mal pesté parce que en gros c'était la grande messe Oracle avec un petit chouïème Java. Et puis après blackout, après Covid. Et c'est vrai que là on a vu le nom Java One qui avait un peu disparu, puisque ça s'appelait Code One avec Oracle One, là, Oracle Word ou je sais plus trop quoi. Donc là voilà, c'est Java One, mais par contre c'est plus au Moscone Center à San Francisco, c'est à Las Vegas, et j'avais pas fait gaffe que c'était au même temps qu'Oracle Word, donc ouais. Voilà.
Et j'ai pas vu de CFP, alors je sais pas si du coup
Ouais, parce que c'est Oracle, en octobre quand même. Encore,
ouais.
En octobre, bon, il y a peut-être encore un peu le temps, mais voilà. Absolument. Java One is back. Bon. Voilà, je suis beaucoup moins enthousiaste qu'avant, donc je suis pas sûr d'y aller. Bon, voilà, bref. Surtout bon, s'il y a des box Belgique.
Première conf et qui est revenu malade, là. Ça vaut le coup, pas
Ouais, alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de conférence en tant qu'attendee. Hein. Alors en plus, là, c'était rigolo parce que j'y allais en tant que Microsoftie, donc j'étais sur le stand en plus. J'ai fait stand plus conférence. C'était sympa de revoir des gens, des têtes connues. Il y avait beaucoup de sourires, les gens étaient super contents. C'était Javaland, donc Javaland, c'est un peu fou parce que c'est un parc d'attractions et il est privatisé.
Oui, il est privatisé. Hein.
Il est privatisé parce qu'en fait, on est en Allemagne, à Cologne. Début mars, il fait froid. Hein. Enfin,
c'est pas, vous voyez, c'est pas qu'il est privatisé, c'est qu'il est fermé.
Mais je pense qu'il est, en fait, il est juste fermé. En plus, il est assez loin du centre-ville. Mais c'est c'était sympa.
C'est vrai que c'est en hiver. Hein.
Ne serait-ce que revoir les gens. Puis c'est énorme. Le parc est énorme. Donc, les salles sont éparpillées à droite, à gauche. C'était du Java, Java, Java. Il y avait 1200 personnes au lieu de 2200. Donc je pense que, alors quand j'y suis allé, il n'y avait plus le port du masque en France, il y avait encore le port du masque qu'en Allemagne, donc ils sont peut-être un peu plus durs avec ça, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde que les années d'avant. En tout cas, c'était sympa de se faire une conférence. Voilà.
Cool. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Désolé pour le son qui sera peut-être pas exactement comme d'habitude, parce que j'ai... Non seulement j'ai eu du temps à mettre en place, mais j'ai dû trouver des solutions alternatives. Et puis, à la prochaine.
Bah, la prochaine, c'est pas à DevOps France.
Non, je ne sais plus. À voir. Hein. En théorie, pas. Non.
Parce que c'est... Mais... Oh, si, toi, attends, il doit y en avoir un juste avant, non?
Ou peut-être qu'il y en a un
avant. Il y en a un avant, ouais.
Ouais. La semaine d'avant, je pense. Je n'ai pas vérifié sur le calendrier.
C'est Arnaud qui va le faire, ou un truc comme ça.
tout seul, en guise de punition.
Voilà. Cool. Eh bien,
messieurs, dames,
à bientôt.
À la prochaine.
Bisous. Ciao. Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthem.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.